Et sans surprise, bien sûr, Lise, il va être question des événements et de la guerre entre Israël et le Hamas avec votre invité.
Oui, il va même être question de tactique militaire, puisqu'on est ce matin avec Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires de Tsahal. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Bonjour.
Alors Raphaël, Tsahal a confirmé des débuts d'incursion terrestre, on va dire, un ballon d'essai, quelques chars qui commencent à enlever des explosifs et peut-être à préparer la route pour la suite, c'est ça ?
Oui, c'est le préparatif de la grande offensive avec ce qu'on appelle les ouvertures de passage. Donc on prépare un petit peu, il en faudra plus que deux, hein, il y a la nuit dernière et la nuit d'avant. Ça fait deux passages qui sont préparés pour une entrée massive des troupes israéliennes. Il en faudra bien sûr plus, mais nous avons quelques jours apparemment devant nous puisqu'on nous demande de retarder un peu cette offensive pour des négociations à propos des otages. Ce qui nous permet effectivement, dans ces incursions nocturnes terrestres, de recueillir beaucoup plus de renseignements sur le terrain, de repérer des tunnels, de préparer donc de différentes manières cette offensive avec de miner certains endroits, déceler des présences de rampes de lancement ou d'entrée de tunnels, de supprimer certains éléments terroristes, de placer par-ci par-là quelques éléments technologiques qui faciliteront aussi l'offensive et permettront de mieux cibler la surprise que nous leur préparons, car il y a une surprise qui les attend. Et donc, tout cela est très, très utile et permet donc, en attendant aux troupes massées à la frontière, d'attendre que tout soit bien préparé et de mieux s'organiser, de s'entraîner, car le scénario est un scénario un peu inédit, donc il faut qu'ils s'entraînent à ce nouveau scénario d'attaque. Donc, tout cela est plutôt favorable, effectivement, à la préparation sereine d'une offensive qui devrait être basée sur un choc initial extrêmement violent pour le Hamas.
Alors ce matin, Raphaël, un sondage qui est sorti ce matin dans Maariv disait que selon la semaine dernière où on était à 65% des Israéliens qui étaient pour cette invasion terrestre de Gaza, on n'est plus aujourd'hui qu'à 49%. Donc on voit que ce pourcentage il baisse dans la population israélienne. Est-ce qu'on pourrait s'en passer ou on n'a absolument pas le choix ?
On n'a absolument pas le choix dans la mesure où si l'objectif et ce serait dommage que ce ne soit pas l'objectif. Si l'objectif est la destruction, l'annihilation du Hamas, alors c'est sûr qu'on ne pourra pas les exterminer jusqu'au dernier, mais les démanteler au point qu'ils ne puissent pas se relever de leurs cendres, on est obligé d'avoir cette offensive terrestre. Ne pas annihiler le Hamas, c'est avoir eu tous ces drames pour rien, tous ces massacres, ces victimes de massacres mortes pour rien, ces otages martyrisés pour rien, ces soldats de Tsahal tués pour rien. Je doute que ce sondage soit exact. Moi, je me méfie de la façon dont la question a été posée. Ça influence souvent la réponse. D'ailleurs, les sondages, en général, sont inexacts. Et en plus, je peux vous assurer que moi, mon sondage à moi, je n'ai pas encore entendu une seule personne que j'aille dans un café avec les serveurs, les clients, n'importe où, j'ai pas encore une seule personne ne pas vouloir de cette offensive terrestre. La seule chose, évidemment, c'est que nous avons tous très 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 peur pour la vie de nos soldats. Oui. Et les mères juives, évidemment, tremblent.
Bien sûr.
Mais je pense que ce sondage est inexact.
Alors, on a appris que pendant toute cette préparation des massacres du 7 octobre, qui a duré visiblement 2 ans et qui a été faite en grande concertation avec l'Iran, les terroristes du Hamas avaient fait à l'ancienne, on va dire. Donc, bas bruit, pas de téléphone, réunion sans prise de notes, aucun électronique. Est-ce que ce n'est pas ça un des problèmes de Tsahal, c'est d'avoir peut-être fait un peu trop confiance à la technologie et pas aux vieilles méthodes de l'antiterrorisme, Raphaël ?
Oui, absolument. Il y a eu deux niveaux dans l'erreur qui a été commise. Le premier, c'est la misconception au niveau doctrinaire politique, de laisser se renforcer le Hamas et de croire que c'était une bonne chose d'avoir le Hamas à Gaza comme contrepoids au régime de Ramallah, de l'OLP à Ramallah. Donc, erreur stratégique totale. Sur le terrain, effectivement, beaucoup trop confiance à l'électronique, mais en plus, un problème très très grave, c'est le problème de ne pas avoir été à l'écoute des paroles qui s'élevaient du terrain. Et surtout, des soldats postés en observation le long de la frontière, qui du haut de leur mirador et à la jumelle, ont vu ce qui se passait, ont compris ce qui se passait. Ils n'ont pas pu tirer la sonnette d'alarme parce qu'elles sont réduites à ne donner que des chiffres. Elles disent « j'ai vu tant de voitures, j'ai vu tant de terroristes, j'ai vu ». Mais ils n'ont pas le droit de donner leur impression. Et ça, c'est une très 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 grave erreur, parce qu'à quoi ça sert d'avoir un élément humain si on n'utilise pas justement son humanité et ses intuitions humaines, et on s'en sert comme d'une caméra améliorée. Donc il y a eu des signaux, même si les terroristes ont voulu se montrer discrets, en fin de compte, ils ne l'étaient pas, puisqu'il y a eu des signaux très très clairs. Jour après jour, on a vu qu'ils intensifiaient leurs entraînements, qu'ils observaient à la jumelle et par d'autres moyens la frontière avec Israël. Et ces jeunes femmes qui sont en poste d'observation ont payé cela de leur vie, hein, puisque sur une unité de 25 jeunes soldats, 23 ont été tués. Il n'y a que deux survivantes qui témoignent aujourd'hui du fait qu'elles, elles avaient vu que leur chef, qui est une jeune lieutenant, avait bien compris que quelque chose se tramait et qu'aux échelons supérieurs, elles n'ont pas pu faire passer le message. Elles envoient les données, elles ne savent pas ce qu'on fait de ces données. Elles osaient plutôt espérer qu'on les gens plus haut avaient compris ce qui se passait. Apparemment, ils n'avaient rien compris. C'est très très grave. Ça va être évidemment un immense changement. Il va falloir faire confiance à ce que des fois le cœur ou les tripes du soldat sur le terrain lui indiquent. C'est extrêmement important d'écouter la voix de celui qui est sur le terrain. Et ça, une erreur, vraiment le béaba militaire.
Une question très précise, Raphaël Jérusalem. On parle beaucoup de cette histoire de carburant, du fait que Gaza veut absolument récupérer du carburant, du fait qu'ils ont volé du carburant aux hôpitaux de l'UNRWA. Pourquoi est-ce que c'est tellement important pour les terroristes et est-ce qu'on va pouvoir se permettre de livrer du carburant ou surtout pas?
Alors, surtout pas. D'abord, il y a encore énormément de carburant. Il y a plusieurs millions de litres de carburant dans les réserves du Hamas, qu'ils ne donnent pas effectivement aux hôpitaux ni à la population civile, qu'ils gardent, un, pour leur générateur, deux, pour faire les mélanges nécessaires pour faire du combustible pour les missiles. Il y a du carburant plein. Il n'y a pas, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, il n'y a pas de crise humanitaire à Gaza. Il y a de la nourriture, il y a de l'eau, il y a des médicaments. Il pourrait y avoir éventuellement une crise humanitaire. Il y en a une dans la mesure où les gens ont été déplacés, ont dû abandonner leur maison. Ils se sont réfugiés vers le sud. Mais il n'y a pour l'instant pas du tout... les marchés du sud de Gaza sont ouverts, hein, avec les stands approvisionnés en nourriture. Donc tout cela, c'est de la poudre aux yeux. Les gens du Hamas, eux, n'en parlons pas, les hauts dirigeants et les chefs dans leur tunnel, ils ont des vivres pour longtemps et même des produits de luxe. Donc tout ça, c'est la poudre aux yeux et il est évident que ce serait une grave erreur de laisser passer des carburants. Mais bien sûr, si ça peut sauver des otages, on le fera peut-être. Et ça me rappelle la Hongrie de 1944, où on voulait aussi, en échange de camions militaires, sauver des 10 juifs. C'était un camion militaire pour 100 juifs. C'était le tarif. Donc on est revenu, comme beaucoup de choses, avec l'antisémitisme qui remonte le bout du nez, avec ces massacres horribles. On est revenu à la période nazie, où on va échanger donc des vies d'otages contre des camions.
Mais voilà, à vrai dire, Raphaël, c'était même avant, on échangeait. À l'époque de l'Inquisition catholique, on échangeait bien des bateaux et de l'argent portugais contre la vie des Juifs. Malheureusement, c'est toujours notre histoire, cette affaire-là.
C'est toujours notre histoire. Ça n'a pas évolué, malheureusement. Et il est triste de voir aujourd'hui. Mais d'un autre côté, c'est peut-être intéressant pour la sécurité des Juifs. C'est les antisémites montrent leur vrai visage, ils se découvrent, ils battent les masques. On les voit dans les manifestations pro-palestiniennes, on les voit dans certains plateaux de télévision, on les voit dans certains podiums politiques. Et donc aujourd'hui, l'antisémite montre son visage exactement comme il avait relevé la tête au moment du nazisme. Ouais. C'est les mêmes méthodes et c'est les mêmes concepts racistes primaires.
Ma dernière question, Raphaël Jérusalemi, c'est sur les otages. On a entendu des bruits sur des demandes du Hamas de faire libérer les femmes prisonnières, d'autres bruits sur libérer la totalité des prisonniers palestiniens. Quelle info vous avez aujourd'hui sur ces négociations?
Oui, il y a beaucoup de rumeurs et les Qataris sont assez champions pour les faire circuler en faisant croire qu'eux, ils sont les gentils et braves intermédiaires, alors qu'ils sont les responsables eux-mêmes de ce qui se passe aujourd'hui. C'est un grand dilemme moral. Moi, personnellement, mais c'est que mon opinion personnelle, c'est un tout ou rien. C'est où on libère tous les otages, où on n'accepte pas ce cynique compte-gouttes, ou alors cette sélection, hein, encore de nouveau dans la période nazie. Hein. Bientôt, ça ne sera pas s'ils sont américains ou français, ou jeunes ou vieux, ça sera s'ils ont les yeux bleus ou pas les yeux bleus. Donc, c'est pas normal. C'est où un tout ou rien. D'un autre côté, c'est un grand dilemme aussi parce que cette offensive terrestre que nous préparons fera que les otages risquent d'être eux-mêmes tués dans les affrontements puisqu'ils sont dans les tunnels avec les chefs du Hamas. C'est un dilemme terrible sur le plan moral, sur le plan stratégique. Il faut bien comprendre que ces vies des otages, il y a dans la balance la sécurité des soldats dans l'offensive. Donc là aussi, il faut voir et ne pas trahir cette offensive par donner beaucoup trop au Hamas avant. Pour moi, il faut avoir ici une position ferme et ne pas accepter ce cynique compte-gouttes ou cette cynique sélection des otages. De toute façon, le Hamas va jouer ça contre la montre. Il va faire prolonger les négociations exprès pour retarder l'offensive qu'il redoute. Et en plus, je ne crois pas du tout un seul moment que le Hamas est prêt à les libérer. Il en gardera au moins 50 parce que c'est l'assurance vie des hauts dirigeants du Hamas qui sauveront leur peau grâce à ces otages. Quand le grabuge arrivera, diront « laissez-nous la vie sauve et un passage vers l'Égypte et on vous rendra les otages ». C'est leur seule assurance vie.
Eh oui. Les pauvres, on espère qu'Israël va trouver un moyen de les faire sortir, même si ça doit être une manœuvre compliquée comme ça l'était à l'époque d'Entebbé. Merci Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires, pour vos analyses toujours tellement pertinentes.